10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Une année politique qui touche à sa fin, ou presque, et qui restera marquée par la crise sociale qui agite notre pays depuis maintenant quelques semaines. Hier encore, près de 40 000 gilets jaunes ont manifesté dans toute la France avec quelques dérapages encore très violents. Crise de revendication sociale, mais pas seulement, crise démocratique aussi. Les citoyens que nous sommes ne s'estiment plus entendus, voire représentés par nos institutions. Alors, comment redonner du sens à notre vivre ensemble ? Bonjour, Monseigneur Aupetit.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à quelques heures de Noël. Vous êtes depuis un an archevêque de Paris, le plus important diocèse de France, et vous avez été nommé hier par le pape François, membre de la Congrégation pour les évêques. Vous avez été médecin avant de répondre à l'appel de Dieu. Vous avez choisi ces derniers jours de vous emparer de la question sociale. Vous allez nous dire pourquoi, comment et si vous avez des remèdes à conseiller. Vous vivez aussi aujourd'hui dans une église qui est fragilisée par différents scandales, notamment les scandales d'abus sexuels. Et vous allez nous dire comment vous affrontez cette crise. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question.
Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Une mobilisation en forte baisse, celle des Gilets jaunes, Hélène en parlait, vous l'avez vu hier, et des dérapages graves, des scènes de violence inouïe contre des policiers, à Paris notamment, un simulacre de décapitation du chef de l'État, et puis aussi des chants et des gestes antisémites au pied notamment du Sacré-Cœur, à Paris, à Montmartre. Vous parliez d'urgence de la fraternité, début décembre. On en est vraiment très loin ce matin.
Mais justement, c'est parce qu'on en est loin qu'il y a une urgence. Si on en était près, il n'y aurait pas d'urgence. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase un peu compliquée où la violence s'exprime. Et quand la violence s'exprime, ça veut dire qu'elle traduit une colère. Il faut faire le diagnostic, si je me permets de reprendre mes anciens termes. Diagnostic de cette colère. Qu'est-ce qui justifie cette colère? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Il me semble qu'il y a plusieurs choses qui sont sous-jacentes à tout cela. C'est la première chose, c'est... la déconsidération des personnes, l'impression qu'on n'est pas entendu et qu'on ne peut être entendu que si on réagit fortement et notamment par la violence. Alors la violence n'est jamais une bonne chose, c'est même extrêmement scandaleux parce que la violence est toujours l'expression d'une colère, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans la haine, vous voyez. La violence, elle peut être une réaction. Si quelqu'un vous insulte, vous met une claque dans la figure...
Hier,
vous
avez, il y avait de la haine
vous
de
avez
la part de
vraiment
de ces manifestants.
Envie de répondre. Mais ça, c'est quelque chose de violent sur lequel vous avez du mal à maîtriser. Mais en fait, normalement, on doit apprendre à se maîtriser. Ça fait partie du propre de l'homme. Mais tomber dans la haine, c'est beaucoup plus grave. Tomber dans la haine, c'est choisir quelque chose. On choisit de s'enfoncer dans la haine. Et là, c'est dangereux, parce que si notre pays s'enfonce dans la haine, il va y avoir des conflits entre les personnes, entre des communautés, entre des catégories de personnes. Et là, on arrive effectivement à une situation peut-être d'émeute ou peut-être même
d'incompréhension. On y était hier, à Paris, ces scènes.
Pour certaines personnes, il ne faut pas généraliser sur les 30 000 personnes ou 39 000 ou 40 000 personnes qui étaient dans les Gilets jaunes. Il n'y a pas 40 000 personnes de violents. Il y a quelques-unes qui sont violentes. Certaines sont venues pour justement exprimer la violence, d'autres ne l'étaient pas. Donc il ne faut pas généraliser. Il faut regarder effectivement ceux qui étaient dans la violence et quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont exprimé cette violence et puis pourquoi cette haine sur des gens qui font leur métier, c'est-à-dire des policiers.
Dans votre message de début décembre, vous pointiez une souffrance importante, je cite, d'une grande partie de nos concitoyens. Cette souffrance, vous la ressentez depuis longtemps et cette colère, vous la voyez monter depuis longtemps?
La souffrance, oui. Alors, ce n'est pas forcément une souffrance, c'est plutôt une souffrance existentielle qu'une souffrance particulière due aux contingences. Alors c'est vrai qu'il y a des contingences, hein. Les gens commencent à se poser des questions par rapport à la taxation très forte qu'il y a en France. C'est-à-dire que, est-ce que le travail permet encore de gagner sa vie? Est-ce que le travail est plus taxé que la finance? Ça, c'est quand même une question essentielle. Et c'est un peu devant cette injustice que les Français réagissent. Est-ce que la finance rapporte plus que le travail? Donc ceux qui travaillent se demandent pourquoi ils travaillent. Et puis il y a
vous
aussi
qu'il y a une injustice à ce niveau-là.
Et puis il y a la répartition
la
aussi des des aides sociales. Mmh. Les aides sociales, on a vu, on a entendu quelques échos à ce sujet, de gens qui profiteraient de la manne, justement, mmh. et puis que d'autres seraient obligés de travailler pour faire profiter ceux qui ne font rien de la manne. C'est un peu ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la question, est-ce que c'est une réalité, oui ou non ? Et c'est important, justement, de s'arrêter, de s'asseoir, de regarder, de dialoguer et de savoir si c'est une réalité ou pas. Si c'est un fantasme, bon, ben, il faudra le mettre à plat et que les gens se rendent compte qu'ils se trompent. Ou bien, il y a une vraie réalité, il faudra bien s'y attaquer.
Mais vous pensez, vous que c'est une réalité, justement ?
Ben, peut-être, moi, j'en sais rien. Tant qu'on n'a pas fait le travail de fond, de savoir s'il y a une réalité derrière, en tous les cas, il y a là quelque chose. Le président a commencé à répondre à cette question en proposant des choses. Donc nous avons rebondi immédiatement au diocèse de Paris, nous avons proposé, enfin nous avons demandé à ce que tous les salariés du diocèse touchent une prime de 500 euros non taxable, non imposable. Alors ça ne change rien. Déjà, ils recevaient une prime, comme la prime de fin d'année, comme normal, celle-ci ne sera pas touchée. Les primes exceptionnelles pour les gens qui ont travaillé vraiment de manière particulière, mais celle-ci vient s'ajouter pour tous les salariés. Donc 500 euros pour tous les salariés. Nous demandons à toutes les paroisses de le faire aussi, pour jouer le jeu, si vous voulez. Il y a une proposition, donc nous devons être artisans de paix. C'est notre travail de chrétien d'être artisans de paix. Donc on rebondit immédiatement en demandant aux paroisses de faire ça aussi avec tous leurs salariés. Il y a quand même plus de 100 paroisses dans Paris. Et donc tous les salariés qui travaillent sur les paroisses en bénéficieront. Il y a des paroisses qui n'ont pas les moyens de le faire, donc nous engageons une caisse de solidarité pour que les paroisses plus riches puissent aider les paroisses plus pauvres à accomplir ce geste.
Donc vous avez répondu à l'appel du président de la République.
Il me paraît que c'est important. Il faut. Il y a quelque chose d'une perche qui nous est tendue. Donc voilà, si on veut désamorcer les conflits, il faut aussi saisir la perche qui nous est tendue. Ça, c'est une première réponse.
Dans le message que vous avez envoyé, que vous avez lu début décembre, vous évoquiez l'arrogance qui avait conduit à une frustration. Tout le monde l'avait compris à l'époque comme une adresse à Emmanuel Macron. C'est bien lui que vous visiez à ce moment-là ?
Non, pas du tout. Non, l'arrogance, c'est l'arrogance parisienne. Vous savez, quand je suis parisien et que j'arrive en province, je file bas, si vous voulez, hein, parce que il y a une certaine forme d'arrogance parisienne et qui est comprise comme ça, tout au moins par les gens de province. Et quand je viens, je dis, oui, je suis parisien, mais j'insiste pas trop dessus. Parce que, vu de la province, les gens nous disent, mais vous décidez de tout, vous pensez plus intelligent, vous nous traitez de ringards, vous nous traitez d'arriérés, etc.
Il y a le même clivage, du coup, dans l'église les élites de Paris et celles telles qu'elles sont vécues en province.
Moi, je ressens un peu ça, mais ceci dit, je pense que c'est généralisé à toute la population. Hein. Ce n'est pas spécifique à l'église, bien entendu. L'église ne fait que suivre, effectivement, les conditions sociales et les façons dont les gens vivent ensemble. Non, il y a une forme d'arrogance, ou du moins c'est compris comme une arrogance. Et il faut qu'on soit attentifs, nous justement, qui vivons dans les grandes métropoles. Il n'y a pas que Paris, hein, les grandes métropoles aussi, d'une certaine forme de supériorité ou d'impression de supériorité qui déconsidérerait les autres, qui seraient, comme on disait autrefois, les ploucs et les péquenots.
Donc il faut écouter les territoires dans l'Église également.
Oui, bien sûr. Dans l'Église et dans la société, hein, c'est généralisé, hein, c'est pas spécifique à l'Église. Donc, il faut qu'on soit prudent, qu'on sache s'écouter, qu'on sache s'épauler aussi. C'est ce qu'on essaie de faire entre évêques, hein, de se rendre des services mutuels. Et pour ceux qui ont le moins de possibilités, non pas de les aider du haut de notre splendeur, mais de voir avec eux comment on peut faire. Par exemple, je t'aurais dit, moi je suis prêt à envoyer des équipes de prêtres ou de laïcs qui sont formés dans les diocèses. Mais moi, je suis un urbain, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire dans votre diocèse. C'est à vous de dire ce dont vous avez besoin et avec des vrais objectifs, des objectifs qui sont évaluables. Et donc, à ce moment-là, les gens qui vont sont enthousiasmés. Il ne s'agit pas de boucher des trous, parce que si c'est boucher des trous, les gens sont malheureux. Donc voilà, comment on réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire pour les territoires. Et je pense que ce que nous faisons pour l'Église pourrait aussi se rapporter à l'ensemble de la société, puisqu'on cherche à dialoguer.
Justement, dans votre message, vous fustigez l'individualisme, mais aussi la perte de la notion du bien commun, de l'attention aux plus faibles. C'est en quelque sorte un peu la politique économique du gouvernement que vous critiquez à demi-mot.
Ce n'est pas le gouvernement, ça vient de très loin. Hein. Pour moi, ça vient de très très loin. Je vous donne un exemple. Quand j'étais petit, j'habitais une résidence.
Avant même le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr.
Ce sont des années et des années.
L'individualisme, ça fait longtemps que ça existe. Hein. D'ailleurs, la preuve, la publicité, c'est parce que je le vaux bien, c'est mon choix, etc. Donc autrement dit, c'est moi qui compte et l'autre ne compte pas. Quand j'étais petit, j'habitais une résidence. Cette résidence, on avait la clé sur la porte. Quand on s'en allait, tout le monde pouvait rentrer, etc. Je retourne dans le même endroit aujourd'hui. Il y a des codes partout et les portes sont blindées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais médecin après en banlieue, quand j'allais dans les cités, les gens se rendaient des services indépendamment de leur religion ou de leur état de vie, etc. On allait chercher la grand-mère, on allait chercher les enfants, pardon, garder la grand-mère, etc. Et ça se faisait naturellement. Aujourd'hui,
ça
vous
n'existe
retournez.
Plus aujourd'hui.
Ah non, vous retournez, je vous assure, c'est des communautarismes. Et chacun chez soi, c'est très difficile.
Et la responsabilité du politique dans cet individualisme.
Je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est l'ensemble de la société. C'est-à-dire quand on fait de la pub en disant c'est moi qui compte, c'est moi qui compte, c'est moi qui compte, forcément, ça finit par jouer sur les mentalités. La politique, elle ne fait que suivre. Vous savez, la politique, moi, je crois qu'elle ne suit que l'opinion générale. On voit bien d'ailleurs combien les politiques et les lois suivent les désirs personnels et non plus du tout une vraie réflexion de fond. Et ça, c'est pas spécifique au gouvernement actuel. Ça a toujours été. Donc, sous prétexte effectivement de se faire élire. Mais il s'agit pas de se faire élire. Il s'agit de savoir ce qui est bon pour la société et quel est le bien commun, où se trouve le bien commun et comment on travaille ensemble au bien commun. Voilà ce qui est important.
Nicolas Barré.
Justement, à l'occasion de cette crise des Gilets jaunes, on a vu se former sur des ronds-points des... finalement des lieux de sociabilisation. Alors est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres et l'Église souhaite aujourd'hui ouvrir ses portes, vous l'avez dit, les paroisses souhaitent s'ouvrir et donc échanger. Est-ce que c'est une façon pour l'Église de finalement de réinvestir le social?
C'est de rendre un service, hein. Notre rôle, c'est de rendre service. C'est vrai que sur les ronds-points, les gens se parlent, ils sont heureux de se parler. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'espace de dialogue. Comme je le disais, les gens autrefois se parlaient assez facilement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la télévision, pas forcément CNews, mais enfin la télévision en général, où on reste chez soi. Autrefois, il y avait des veillées communes, elles n'existent plus. Donc, où sont les lieux où on va pouvoir se rencontrer indépendamment d'une communauté particulière? Parce que les réseaux, c'est chacun ensemble. Je ne réseaute qu'avec ceux qui me ressemblent et qui pensent exactement comme moi. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer des gens avec lesquels je peux discuter, les écouter et puis confronter nos opinions pour devenir plus intelligent, tout simplement?
Donc vous ouvrez les portes de vos églises?
Oui, on a 13 000 paroisses. On a 13 000 paroisses. On a des lieux d'aumônerie, on a des lieux du mouvement, on a des lieux même de lycée, etc. Comment on peut ouvrir? On demande donc à tous les catholiques de bien vouloir ouvrir ces lieux-là pour en faire des lieux de dialogue. Pas de religion, mais de dialogue. Vous savez, les questions qu'on a posées, c'est quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et les formes violentes qu'il a prises. Donc vous voyez, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est simplement pour que les gens puissent parler entre eux, réfléchir en ayant peut-être des conditions de vie différentes, mais voilà, quels sont les lieux où on va pouvoir parler gratuitement, simplement, en faisant des espaces de convivialité. Donc c'était la première chose. Après, il y a comment permettre aux citoyens, dans notre démocratie, de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques. C'est-à-dire qu'une fois quelqu'un est élu, il a un programme, il applique son programme. Mais est-ce qu'il est possible, pendant les 5 ans de la présidence, de pouvoir encore discuter? C'est quand même la question qui se pose. Est-ce qu'on peut dire, oui, peut-être que là, on pourrait réfléchir.
Donc on va pouvoir aller parler politique aussi dans vos églises?
Oui, bien sûr, pourquoi pas. La politique, c'est au service du bien commun, que je sache. Et notre église est aussi au service du bien commun, même si, effectivement, le bien commun s'élargit à l'éternité divine. Bien sûr.
Monseigneur Michel Aupetit, l'invité du Grand Rendez-vous, on se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, est l'invité du Grand Rendez-vous. L'Église, un peu partout, secouée par des scandales d'abus sexuels. Une question de Nicolas Barré.
Oui, et en cette fin de semaine, lors de ses vœux à la Curie romaine, le pape François a affirmé, je cite, « L'Église ne détournera plus jamais le regard face aux abominations de membres du clergé ayant commis des abus sexuels ». Le pape François a aussi demandé à tous ceux qui avaient commis ce genre d'abomination, comme il le dit, de se livrer eux-mêmes à la justice. C'est ce qui va se passer en France?
C'est déjà le cas depuis pas mal d'années. Nous avons mis en place sur l'ensemble de la commission des évêques de France un certain nombre de structures, un protocole aussi, quand il y a un signalement, comment nous devons faire. Et puis sur le diocèse de Paris, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il y a des choses extrêmement précises avec des juristes et que nous travaillons la main dans la main, surtout avec la justice. Vous voyez, moi je crois beaucoup à la
justice
française.
Alors justement, quel est ce protocole? Est-ce que quand vous,
bien,
vous
quand
savez
quand on nous fait un signalement, on reçoit la personne immédiatement déjà avec des témoins, de façon à ce que il peut y avoir d'autres personnes qui témoignent de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont entendu, de façon que ce soit pas simplement quelqu'un qui soit gardien de ce qu'on lui a proposé. Ensuite, on fait un rapport et on voit si ça relève du pénal ou pas du pénal, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Vous savez, il y a la pédophilie. Bon, pour être clair, à Paris aujourd'hui, il y a 18 cas, 18 dossiers sur presque 600 prêtres. 18 dossiers, sur ces 18 dossiers, 8 concernent des mineurs. Donc les autres, ce ne sont pas des mineurs, soit, de, soit des comportements inadéquats, etc. Voilà. Et puis, donc, 8 concernent des mineurs et 2 concernent des mineurs qui sont prépubères, c'est-à-dire la pédophilie au sens strict. Donc, tous ont fait l'objet d'une enquête, bien sûr. Et voilà. Donc, et ça, ça remonte depuis 1950. Donc, les choses sont assez claires. Aujourd'hui,
et
la plupart...
Et tous aujourd'hui devront répondre devant la justice.
Ah ben, ils ont déjà répondu. Quand je parle de dossiers, déjà qui sont passés, déjà qui ont répondu devant la justice et qui sont passés devant la justice. Moi, je crois beaucoup à la justice parce que quand j'étais à Nanterre, j'ai eu un cas, mais c'était pour un adulte, hein. Donc, j'ai vu comment la police menait effectivement cette enquête avec beaucoup de sérieux, vraiment du professionnalisme. Nous ne sommes pas des professionnels.
Est-ce que vous êtes formé, justement, ou est-ce que vous êtes capable d'accompagner
On est capable d'accompagner dans l'écoute. L'écoute, c'est un petit peu notre domaine. Mais le problème, c'est que cette écoute s'accompagne toujours de miséricorde. C'est, nous croyons que tout homme peut se racheter. Et c'est là-dessus, peut-être, que nous avons commis une erreur. C'est parce que nous croyons toujours que tout homme peut se racheter, effectivement, devant Dieu. Mais il faut quand même protéger les personnes. Et c'est cette inadaptation entre la protection des personnes et le fait de se dire « cet homme peut se racheter », etc., que nous avons commis des erreurs. Pourquoi ? Parce que notre droit canon, nous avons un droit de l'Église, il ne s'adapte pas du tout à ces questions-là. C'est des questions de liturgie, c'est des questions de fonctionnement de l'Église, mais pas du tout à ces questions-là. Donc, c'est pour cela que nous devons absolument faire confiance à la justice française. Et moi, j'ai pu voir, comme je vous le disais, combien ils étaient sérieux dans l'enquête, délicats avec aussi bien la victime que l'accusé, parce que quelquefois, il y a des accusations qui peuvent être injustes. Et puis, moi-même, j'ai été interrogé comme témoin, donc j'ai vu le professionnalisme de ces personnes-là, et je crois qu'on peut vraiment faire confiance à la justice française. Donc, il faut qu'on travaille vraiment main dans la main avec la justice.
Mais donc, pour bien comprendre la procédure, quand vous avez connaissance de cas de ce type, vous saisissez vous-même...
Eh bien, on fait un signalement, et c'est donc à la justice française de considérer quelle est l'atteinte pénale. Ça rentre dans les crimes, ça rentre... dans les postures inadéquates, etc. Donc on voit bien que c'est vraiment, il me semble, c'est pas à nous de juger cela. Nous avons accompagné les personnes, c'est-à-dire à accueillir les victimes. Souvent, quand on reçoit les victimes, j'en ai reçu pas mal, évidemment, mais de choses qui dataient, c'est des personnes qui ont mon âge et qui ont été abusées quand elles étaient adolescentes. Donc, vous voyez, ça remonte à loin. Mais ceci dit, elles avaient besoin d'en parler. Pourquoi elles en parlent? D'abord, un, pour sans doute surmonter un peu toutes ces questions qui les taraudent depuis longtemps, oui. Et aussi... pour que ça ne se reproduise pas. C'est toujours cela. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pour cela qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce
sujet.
Alors, vous avez confié à Jean-Marc Sauvé, donc ancien vice-président du Conseil d'État, le soin de faire la lumière, justement, sur les abus sexuels, sur les mineurs, depuis les années 50. Une commission a été formée. Elle a 2 ans pour travailler. Alors, qui l'a composée? Qu'en attendez-vous?
Ah, mais c'est M. Sauvé qui la compose. Ah ben c'est lui
qui
a composé son équipe, nous n'avons pas à intervenir.
Vous n'intervenez en rien.
Ah ben non, rien du tout. Nous, simplement, on a choisi quelqu'un qui nous paraissait indiscutable. Bon, visiblement, cette personne est indiscutable, elle est d'ailleurs indiscutée aujourd'hui, et donc nous pensons que l'enquête va être extrêmement menée sérieuse. Ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir nos dossiers et puis de laisser cette commission agir.
Mais qu'est-ce qui va se passer pendant 2 ans? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir des rapports d'étape?
Sans doute.
On ne va pas attendre 2 ans
pour faire la lumière
sur un certain nombre de faits.
Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai mis cette commission en route, ce n'est pas non plus les évêques de France, c'est M. Sauvé qui décidera de ce qu'il doit faire. Sinon, ce n'est pas une commission indépendante. La commission indépendante fait que M. Sauvé va décider lui-même de la façon dont il va mener son enquête et dont il va produire des éléments au fur et à mesure. Parce qu'il faut quand même du temps pour retisser l'histoire. Vous savez, moi j'ai eu un cas justement de cette personne dont je vous parlais à Nanterre.
Eh bien, il a fallu que je retrouve des témoins, mais ça fait 30 ans ou 40 ans, les témoins, ils ont tous disparu, déménagé, etc. Donc c'est très très difficile d'arriver à retrouver les éléments précis pour reconstituer l'histoire.
Il était question qu'une commission d'enquête parlementaire, députés, sénateurs, se saisisse de ce dossier.
Ça, c'est les parlementaires, c'est pas moi. Je ne m'occupe pas du Parlement, je ne fais pas partie du Parlement, je suis ni député ni sénateur, donc que le Parlement règle ses affaires parlementaires. Nous avons demandé une commission indépendante, une commission indépendante sérieuse qui va faire ce travail-là.
Mais vous êtes soulagé que les politiques, que les sénateurs et les députés ne s'intéressent pas à cette question-là?
Ben si, ils s'intéressent à cette question-là, puisque justement, ils suivent de près la commission Sauvé, bien entendu. La question, c'est est-ce que c'est juste? Et s'il y avait une commission d'enquête parlementaire, il faudrait qu'elle soit étendue à toutes les institutions et pas seulement à l'Église, parce que c'est pas l'Église.
C'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénat avec une mission.
C'est pas l'Église qui est les championnes de la pédophilie, entre parenthèses, hein, si on fait les statistiques. Donc, nous devons être exemplaires, ça c'est sûr. Nous devons être exemplaires parce que le message que nous avons apporté est un message d'amour, de fraternité. Donc là, c'est impossible. Du coup, quand on voit les choses qui se passent, notre message est pollué par ce qui arrive. Donc nous devons être exemplaires sur ce sujet-là.
Le père Vignon du diocèse de Valence, qui avait publiquement demandé la démission du cardinal Barbarin pour avoir les agissements présumés d'un prêtre, a été exclu du tribunal ecclésiastique de Lyon. Ça a été perçu au fond comme une sanction contre un lanceur d'alerte. Pourquoi l'avoir ainsi sanctionné?
J'en sais rien, moi. Vous me demandez ça, c'est pas moi. Hein. Il ne fait pas partie de mon domaine de compétence. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi il était sanctionné. A-t-il été sanctionné? Non, je pense qu'il arrivait à son mandat. Ce mandat, comme il arrive dans l'Église, vous savez, vous êtes nommé pour 6 ans, pour 3 ans, renouvelable, ou pour 6 ans. Bon, après, on renouvelle ou on ne renouvelle pas. Donc lui, on ne l'a pas exclu, on ne l'a pas renouvelé.
Il n'y a pas de volonté de faire taire les lanceurs d'alerte de l'Église.
De toute façon, il ne sera pas tué, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a largement les moyens de s'exprimer. Donc ça ne le fait pas taire du tout, puisqu'il peut toujours s'exprimer, et puis vous pouvez toujours l'interviewer si vous le souhaitez. Donc moi, j'en sais rien, puisqu'encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décidé de la suite à donner, c'est-à-dire son renouvellement ou pas. Ça se passe au niveau de la province... de la province ecclésiastique Rhône-Alpes, mais pas de Paris.
Alors le 7 janvier prochain, justement, l'un des 3 cardinaux de France, Mgr Barbarin, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non-dénonciation d'abus sexuels. Est-ce que vous craignez à cette occasion qu'on fasse le procès de l'Église ?
Non, c'est le procès d'un homme. C'est le procès d'un homme qui est accusé de quelque chose. Encore une fois, j'ai dit que je faisais confiance à la justice française. Mais laissons la justice française s'exprimer. Ce n'est pas le procès de l'Église. L'Église, vous savez, elle a apporté le message du Christ, l'Évangile, qui est un message extraordinaire. Voilà. Alors, on peut faire le procès. D'ailleurs, le Christ lui-même est passé en procès. Il a été crucifié. Pourtant, il n'a passé qu'en faisant du bien. Donc, vous voyez, moi, j'ai confiance dans la justice de la France aujourd'hui. Il y a plusieurs types de justice. Hein. Il y a la justice médiatique, qui est quelquefois extrêmement cruelle. Parce
qu'elle n'est pas une justice.
Mais oui, mais quelque part, elle joue le rôle de justice. Parce que quand vous mettez quelqu'un en avant, même s'il est innocent, le mec, c'est fini. Hein, il est cuit pour un moment. Donc, après, il y a la justice humaine, la justice française, qui marche bien. J'ai tout à fait confiance sur notre justice. Puis après, il y a la justice divine. Alors là, je laisse à Dieu la justice divine. C'est celle vraiment que j'attends avec impatience parce qu'elle rétablira tout dans l'exacte vérité.
Nicolas Barré, pour la dernière question de cette partie.
Est-ce que l'Église de France aujourd'hui a des problèmes financiers tels que vous pourriez être obligé de réduire le nombre de laïcs que vous embauchez,
Non, ce n'est pas le cas. En ce moment, je suis en train de réfléchir au contraire à la manière dont les laïcs peuvent prendre des responsabilités dans l'Église. Donc plutôt, c'est plutôt en vue de les embaucher.
Mais
donc,
est-ce que ces affaires de scandale ont
non, pas du
en
tout.
Quelque
on a
sorte pesé sur le denier du culte
dons,
et rend plus difficile la
collecte? Non, la baisse des dons chez nous, elle vient surtout de la suppression de l'ISF, puisque une partie de l'ISF était donnée surtout pour les fondations. Vous savez, ces fondations avec lesquelles nous essayons de faire du bien, d'aider les gens, l'éducation, etc., fonctionnait beaucoup avec l'ISF. Et donc l'ISF
Sauf
étant
que cette
supprimée...
baisse des dons, elle ne date pas de l'année dernière. C'est quelque chose qui,
Non, je vous garantis que le denier de l'Église est stable et même il augmente. Hein, à Paris, tout au moins, moi, je ne connais pas les autres, mais la plupart sont assez stables. Non, on vit sur la générosité des gens. Je trouve que ça, c'est formidable. Parce qu'on pourrait vivre de richesse, mais ce serait très dangereux. On a vu que quand l'Église était trop riche, c'était plutôt mauvais pour elle. Donc de vivre en dépendant de la générosité des gens, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que c'est bien ce que demande le Seigneur. Hein. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez sans bourse, sans sandales, sans rien, et puis là on vous offrira quelque chose, prenez-le, parce que Tout ouvrier mérite son salaire, et voilà, donc nous sommes dépendants de la générosité des gens, et je trouve ça très bien.
Et cette générosité, donc, vous dites, se porte bien. La conférence des effets disait il y a quelques jours qu'il y avait quand même une baisse attendue des dons.
Il y a une baisse attendue, mais pour l'instant, la baisse attendue, encore une fois, elle est sur les fondations, mais pas sur le fonctionnement de l'Église, qui s'appelle le denier de l'Église, et nos quêtes, qui, elles, non seulement sont stables, mais augmentent légèrement. De toute façon, c'est jamais des... sommes extraordinaires.
Monseigneur Michel Aupetit est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, est l'invité du Grand Rendez-vous. Alors on va revenir, Monseigneur, sur les débats bioéthiques qui agitent notre société. Mais d'abord un petit mot sur vous. Vous l'avez dit, vous avez fait mention plusieurs fois, vous avez commencé comme médecin avant de devenir prêtre. Vous êtes aujourd'hui archevêque. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a parfois des questions qui vous posent conflit entre ce que vous étiez hier et ce que vous êtes aujourd'hui?
Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai une grande unité dans ma personne, c'est-à-dire qu'au départ, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai acheté ma première Bible, vous voyez, donc j'étais quand même déjà en retard. Et voilà, j'étais en fac de médecine, puis j'avais mes copains qui n'étaient pas croyants, et moi j'ai toujours eu la foi. Alors je ne sais pas comment ça se fait, mais en tous les cas, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours prié, mais en le disant à personne.
Vous n'étiez pas dans une famille croyante?
Non, non, mais je priais sans que personne le sache, hein. C'est tout, voilà, mais je n'avais pas besoin de le raconter à tout le monde. Et puis à un moment, à 20 ans, je me suis dit, c'est quand même, tous mes copains, ils ne croient pas, etc. Il faut quand même que je puisse répondre à leurs questions. Donc j'ai acheté une Bible, j'ai acheté des tas de bouquins sur la science et la foi, sur des tas de choses comme ça. Et voilà, ici, je me suis formé un peu en autodidacte. Et puis voilà, mais je n'avais pas du tout l'intention de devenir prêtre. Hein. Bon, moi, le métier de médecin, c'était formidable. Et d'ailleurs, en plus, au travers de ce métier, on témoigne de l'Évangile quand même. Ça me paraissait évident. Puis je voulais fonder une famille, avoir des enfants, etc. Non, non, l'appel est venu à un moment très précis de mon existence et il a fallu que je fasse face à cet appel et ça a été un combat. Bien sûr, c'était un combat, ce n'est pas rien de choisir de tout donner et d'abandonner sa vie, parce que c'est quand même cela, hein. On abandonne sa vie dans les mains de Dieu. Voilà, après, dans les mains de Dieu, c'est une chose, puis après, dans les mains de l'Église. Ah, c'est encore plus difficile, parce que l'Église, c'est quand même composé d'hommes pécheurs, hein, donc, comme moi. Et donc, je me disais, mais alors là, ça veut dire que là, c'est un saut extraordinaire. Et donc, c'est quand même un combat intérieur. Et puis, à un moment où on tombe à genoux, vous savez, je me rappelle très bien, c'était dans ma salle à manger, je suis tombé à genoux et j'ai dit, que ta volonté soit faite. Vous savez, c'est dans la prière du Notre Père. Et je savais que là, ça y est, ma vie ne m'appartenait plus. Et après, ça a suivi. Je ne connaissais rien. Je ne savais pas si Dieu m'appelait à être moine, prêtre, etc. Je ne savais rien. Donc, je me suis présenté à quelqu'un qui m'a dit, ben voilà, voilà, voilà. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est assez simple, vous voyez.
Et il n'y a jamais de regret de cette...
Ah non, 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 pas
de cet
tout.
Abandon d'une autre vie que vous auriez pu avoir?
Oui, ben non, 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 non. J'ai toujours été heureux au moment où j'ai vécu. Donc, c'est comme ça, j'y peux rien. C'est peut-être génétique, je n'en sais rien. Il faut demander aux généticiens. En tous les cas, je suis heureux et non, je ne regrette pas. J'ai l'occasion de faire de la médecine, de rendre service aux gens, bien sûr. Quand j'étais à Saint-Paul, ben, tous les SDF venaient me voir pour se faire soigner parce qu'ils ne voulaient pas passer par la CMU parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique leurs papiers. Et donc, je les soignais volontiers. Je le fais volontiers toujours parce que j'ai toujours aimé ce métier. Mais bon, je ne cherche pas du tout. Hein. Voilà, c'est comme cela.
Nicolas Barré.
En vous nommant, le pape a peut-être estimé qu'un ancien médecin était tout particulièrement indiqué pour occuper cette fonction dans un contexte où les avancées médicales déterminent de profondes évolutions de la société. Comment est-ce que vous voyez votre mission? Vous considérez comme un combattant, un lobbyiste, un avocat de certaines causes?
Pas du tout, j'essaie simplement de réfléchir à la vérité de la vie, si vous voulez. Parce que la médecine était au service de la vie et justement de rétablir la beauté de la vie. Parce que la nature, vous savez, ça met du temps à se composer. On l'avait vu avec l'écologie. Hein. Quand M. Dumont parlait d'écologie dans les années 60, il a été moqué, fustigé. Mmh. Aujourd'hui, on dit il a raison. Quelque part, il y a la même chose dans l'écologie humaine, c'est-à-dire qu'en remettant en cause toute la structuration, quand on voit comment fonctionne la physiologie humaine, masculine et féminine, il y a de quoi être admiratif, je vous assure. Hein. Et vouloir toucher à ça en bricolant des choses pour répondre à des désirs individuels, je trouve que là, on va s'avancer sur un terrain qu'on va payer très cher après.
Alors justement, après quelques retards, le projet de loi de révision des lois bioéthiques, hein, comprenant notamment l'extension de la PMA, un engagement du candidat Emmanuel Macron, devrait être présenté et discuté dans les mois prochains, peut-être au début de l'année prochaine. Emmanuel Macron souhaitait un débat apaisé, où chacun serait écouté. Est-ce que vous estimez que ça a été le cas?
Eh bien, je ne sais pas, mais il va falloir le voir, parce qu'il a donné des états généraux de la bioéthique. Très bien. Donc, nous avons pu discuter. Des gens s'y sont investis. Ce n'étaient pas des gens de chez nous. Hein. Il y a eu toutes sortes de gens qui ont participé. Et il y a eu certaines formes de résultats. Mais on n'en tient pas compte aujourd'hui, puisque de toute façon, on a dit que ça passera. Donc, c'est
Il y a le Conseil national de bioéthique d'éthique qui s'est, qui s'est prononcé.
Oui, non, enfin, j'aurais pas insisté sur les choses, mais quand le président du Conseil de bioéthique dit franchement qu'il ne voit pas les différences entre le bien et le mal, alors que l'éthique, c'est justement la distinction du bien et du mal, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme, grâce à son cortex préfrontal, de réfléchir, de discerner, de juger et de savoir ce qui peut faire du bien et ce qui peut faire du mal. Donc je suis quand même un peu étonné, et donc ces avis-là me paraissent moins étayés que du temps du professeur Bernard, qui était un vrai sage et qui, lui, donnait des avis éclairés et intelligents. Là, je pense que c'est simplement des gens qui se mettent au service d'un gouvernement qui leur a demandé de produire une feuille.
Donc on est dans de la communication.
Je ne sais pas, c'est à vous de le dire, c'est vous les spécialistes de la communication.
En
moi, je vous dis simplement ce que je ressens, vous me demandez ce que je ressens, je le dis tout simplement.
Vous avez perdu le combat il y a quelques années contre le mariage pour tous.
Non.
Est-ce que là, vous attendez à perdre le combat pour l'extension de la procréation médicalement assistée?
On n'a pas perdu le combat. La question, ce n'est pas une question de combat. C'est une question de vision humaine, d'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'on va s'attaquer aux vraies questions? Là, on parle de problèmes superficiels, si j'ose dire. Et qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce qui fait la valeur de l'homme? Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme? Est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et réfléchir aux questions anthropologiques? C'est ça le fondement de tout. Alors après, on reste en surface, le mariage pour tous, etc. Ben, il y avait 1 million de personnes dans la rue, on n'a pas tenu compte de ce qu'ils ont dit.
Donc, ce voyez sont des droits nouveaux, ce n'est pas forcément du bricolage, ce sont des droits nouveaux qui sont accordés dans le cadre du mariage pour tous.
Je suis désolé, mais quelque part, un enfant, il naît d'une relation d'un homme et d'une femme. Si on fait autrement, c'est-à-dire qu'on change quand même la question du droit. Le droit se met au service du désir. Or, le droit, il est au service du bien commun et non pas du désir, que je sache, et notamment des plus vulnérables. Or là, ce sont les plus puissants qui en bénéficient, parce que qui fait des PMA et des GPA? Des gens qui ont des sous. Hein. Vous savez, les gens dont on s'occupe, les gens de la rue, etc., ils ne pensent pas du tout à faire des GPA ou des PMA.
Non, la PMA aujourd'hui en France, elle est prise en charge par la Sécurité sociale.
Oui, non, je parle de la PMA pour tous, c'est-à-dire dans des conditions
qui
ne sont pas les conditions adéquates et qui correspondent à ce que nous sommes, hommes et femmes, tout simplement.
Justement, ça rétablit une justice éventuellement entre les
couples.
Mais
il n'y a pas d'injustice, puisque ces personnes ne sont pas stériles. Si elles étaient stériles, il y aurait une injustice, mais là, elles ne sont pas stériles. Elles choisissent simplement d'avoir des enfants selon ce mode-là. C'est-à-dire de faire advenir des enfants dont on ne considère pas les droits, entre parenthèses, parce que les droits de l'enfant de l'ONU aussi insistaient bien sur le fait qu'un enfant a droit d'être élevé par son père et sa mère. Alors, est-ce qu'il y a deux façons d'envisager le droit de l'enfant? Est-ce que le droit de l'enfant est inférieur aux droits des adultes qui sont puissants et qui ont la parole? Enfant, ça veut dire infant, c'est celui qui n'a pas la parole. Et donc, il faut bien que quelqu'un prenne la parole pour eux.
On vous a vu comme citoyen, vous l'avez bien précisé, comme citoyen et non pas à l'époque comme évêque manifesté contre le mariage pour tous. Comme citoyen, vous allez également éventuellement prendre part à des manifestations contre la PMA.
Je crois que la place d'un évêque, ce n'est pas forcément les manifestations. La place d'un évêque, c'est de prendre les paroles et d'aider les gens justement à réfléchir. Ce que je suis en train de faire avec vous ce matin, tout simplement. Mais la manifestation, c'est un acte citoyen et on a bien vu qu'on avait le droit. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas seulement mépriser ces manifestations, parce que quand on était nombreux, tous les gens qui ont participé à la manifestation pour tous... Eh bien, ont eu l'impression d'être profondément méprisés. Et d'ailleurs, on voit, quand on en parle, le mépris qui s'attache à ce qu'ils ont fait. C'est peut-être pour ça que 30 000 personnes cassent tout aujourd'hui, parce que 1 million de personnes n'ont pas été entendues. C'est peut-être une question à réfléchir aussi.
Sur un autre sujet, Monseigneur, faudra-t-il un jour que l'Église se pose la question du célibat des prêtres? Dans quel domaine peut-on avoir des avancées?
C'est pas une avancée forcément, hein, parce que nous, pour nous, le célibat pour le royaume, c'est une avancée, parce que justement, c'est propre à l'homme. Aucun animal ne vit un célibat pour le royaume.
Pas d'évolution c'est le Christ. À attendre...
Non, mais si, c'est possible, parce que c'est une discipline, c'est pas une question théologique. Le Christ a dit, il y en a qui seront comme cela pour le royaume, c'est-à-dire consacrer toute sa vie. Vous voyez, on a des diacres. Ah bien, quand les diacres, ils sont mariés, on leur dit « votre premier engagement, c'est votre épouse et vos enfants ». Pourquoi? Parce que c'est à eux que vous avez donné leur vie. Donc vous allez vous engager, vous êtes ordonné, mais elle est conditionnée par le premier don que vous avez fait de votre vie, c'est-à-dire à votre épouse, à vos enfants. Nous, ou les religieux aussi, quand on donne sa vie, les religieux, les consacrés et les prêtres, quand on donne sa vie, c'est qu'on donne tout, c'est-à-dire qu'on est prêt à partir au bout du monde, on est prêt à partir pour annoncer l'Évangile. Et donc, le premier don, c'est celui qu'on fait totalement à Dieu. Alors que si on est marié, voilà, c'est cette question se pose au niveau de la discipline. Dans l'Église orthodoxe, les prêtres sont mariés, mais en revanche, les évêques sont pris parmi les célibataires pour qu'ils puissent être donnés totalement à la mission qu'ils ont. Et voyez, c'est une question de degré, tout simplement.
La prêtrise pour les femmes, c'est envisageable un jour dans l'Église ?
Mais je pense que les femmes doivent avoir une place très importante dans l'Église. Elles l'ont déjà, d'ailleurs, parce que c'est quand même elles qui constituent le gros des troupes, si je peux dire. Mais aussi, elles ont des responsabilités. Il faut qu'elles aient des responsabilités. La prêtrise, ce n'est pas une responsabilité. La prêtrise, c'est un service particulier de configuration au Christ. Or, le Christ est né homme. Alors, pourquoi il est né homme ? J'en sais rien. Vous demanderez au bon Dieu, quand il viendra, pourquoi le Christ est né homme ? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, il est né homme. Mais ça ne veut pas dire que la plus grande des créatures n'est pas une femme, puisque c'est Marie. Le Christ, nous pensons qu'il est fils de Dieu.
Mais elles n'ont pas encore les mêmes responsabilités dans l'Église, les femmes.
Ah, mais on peut s'arranger pour qu'elles aient des responsabilités de décision.
Mais est-ce que vous avez l'intention de le faire ? Est-ce que
On a commencé. Le pape insiste beaucoup pour que ça se passe comme ça. Et je pense que c'est important, effectivement, que les femmes puissent nous aider. J'ai engagé une femme dans notre conseil de nomination. Elle ne connaît pas les prêtres. Mais je lui ai demandé simplement de nous regarder travailler, nous, parce que nous, on connaît bien les prêtres, les vicaires généraux et moi. Et donc, on nomme les prêtres, alors en fonction de considérations de personnes, mais de lieux. Et je lui dis, mais regardez-nous travailler. Avec son regard de femme, de psychologue, qui travaillait à Bichat, c'est-à-dire je l'ai croisé sans doute à cette époque, et regardez-nous et dites-nous ce qui ne va pas. Et donc, elle intervient quand elle veut pour lui dire, ça ne va pas du tout ce que vous faites là. Vous voyez, nous connaissons les prêtres, donc nous nommons les prêtres, mais j'ai pensé qu'il était important d'avoir une femme pour nous dire ce qui ne va pas. Parce que c'est un autre regard, un regard qui est important, dont on ne peut pas se passer. J'ai fait la même chose, entre parenthèses, au conseil du séminaire. Pour qu'il y ait aussi un regard d'une personne qui connaît bien les séminaristes.
Donc les femmes sont là pour vous regarder et vous aider.
Pas seulement regarder, mais dire aussi des choses que nous devons prendre en considération. Alors le dernier mot, il y a toujours un arbitre, si vous voulez, parce que dans les conseils, moi j'ai beaucoup de conseils, vous savez. Bon, alors j'écoute quand même ce qu'on me dit. Je ne veux pas faire un arbitrage contre l'ensemble de mon conseil. Dans le conseil, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Mais il y a un moment, il y a un arbitrage. Il faut bien qu'il y ait un arbitre. C'est comme un match de foot, hein, si vous voulez. Il faut qu'il y ait un arbitre. Alors lui, il se fait insulter par tout le monde. Mais enfin, il y a un arbitre quand même qui dit, là, il y a un but, il n'y a pas de but. Et il y a un moment, il faut être arbitré. Mais ce qui est important, c'est les conseils. C'est-à-dire les lieux où on réfléchit ensemble. Et on se dit, ben, voilà ce qui est important, voilà ce qui nous paraît important, voilà ce qu'on fait remonter du terrain. C'est pareil dans les paroisses, il y a des conseils paroissiaux dans les paroisses.
Et donc les femmes commencent à entrer.
Oh, mais non, ça fait longtemps, c'est que les femmes sont dans les conseils pastoraux dans les paroisses, où elles ont leur place. Il y en a même qui sont vice-présidentes, parce que le président, c'est le curé, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est souvent le président.
Ah, donc vice-président. Voilà, elles ne sont jamais présidentes.
Ben non, parce que c'est le prêtre qui est président au nom du Christ, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide en dernier. C'est ça qu'il faut voir, c'est l'articulation de la décision finale.
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, est l'invité du Grand Rendez-vous. Une question de Damien Fleurot.
Oui, l'attentat de Strasbourg le 11 décembre dernier nous a malheureusement tous rappelé cruellement que le terrorisme islamiste continuait de prospérer en France, tuait. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonçait aussi la fermeture d'une école clandestine à Marseille, soupçonnée d'être aux mains des salafistes. L'islam politique, Monseigneur, fait-il porter un risque aujourd'hui à la République française ?
Ah, c'est vrai que l'islam est compliqué. Vous voyez, je sors d'une retraite et celui qui nous a prêché à la retraite, c'est Monseigneur Claude Raux, qui a été pendant 40 ans évêque au Sahara, à Gardaïa. Donc, quand il est arrivé en France depuis 2 ans, il dit « mais je ne comprends rien à l'islam de France ». Parce que lui, il a connu l'islam en Algérie et dit « l'islam de France est extrêmement compliqué ». Alors que l'islam
qu'il a connu…
Pour quelle
raison, justement ?
Ben justement, mais il ne comprend pas, parce qu'il y a plusieurs strates. Plusieurs strates d'entités qui sont différentes et qu'il est difficile d'homogénéiser. Vous savez, ce serait simple, effectivement, l'Église, bon, c'est, voilà, on voit à peu près ce que c'est, on a l'habitude, ça fait quand même des siècles qu'on vit avec. Et donc les gens connaissent et ils pensent que dans l'islam, c'est la même chose. Or, aujourd'hui, en France, l'islam, c'est complètement différent. Il y a des choses complexes. Quand j'allais à Nanterre, j'allais faire des visites pastorales. Donc j'allais à Villeneuve-la-Garenne, à Gennevilliers, où je rencontrais les imams. J'allais dans la mosquée, ils venaient aussi dans l'église et on discutait. Mais ils me disaient, les jeunes, on n'a plus la main dessus. Ils ont leur réseau à eux qui passe en dehors de nos mosquées.
Et c'est ça le risque aujourd'hui.
Et donc, il y a plusieurs strates. Alors donc, on peut toujours essayer de négocier avec les officiels, ça c'est sûr, mais ça sert à rien. Parce que, en fait, plus on négocie avec les officiels, plus il y aura des officines clandestines. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer, ces officines clandestines. Comment elles peuvent naître? Comment aussi nous pouvons, et je pense que les musulmans sont prêts à le faire aussi, réfléchir sur des questions de fond. Ce n'est pas seulement les questions juridiques ou ce n'est pas les questions administratives qui vont régler les problèmes de religion. C'est des problèmes de religion, c'est-à-dire d'anthropologie. Quand je prenais le métro, le RER ou le tramway à Nanterre, j'étais très souvent arrêté par des musulmans. Parce qu'il faut dire, je suis un peu reconnaissable. Ils ne savaient pas que j'étais évêque, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils me disaient, vous êtes prêtre? J'ai dit, oui. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Je dis, oui, bien sûr, allons-y. Et puis, on discutait pendant 3 quarts d'heure. Et ils étaient tout contents. À la fin, ils me disaient, merci de m'avoir parlé de Dieu. Pourquoi? Parce que les musulmans sont persuadés aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de Dieu en France. C'est interdit. Et donc, ils se disent, tiens, après...
C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce qu'est la laïcité française.
Exactement. Ils ne comprennent pas ce qu'est la laïcité. Pour eux, c'est l'interdiction de parler de Dieu. Alors, il faut un peu se réunir, discuter avec eux et pouvoir réfléchir sur le fond. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Et qu'est-ce que c'est sa relation à Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? C'est la question du psaume. Et donc, c'est vraiment des questions de fond qu'on doit aborder, pas seulement des questions administratives, parce qu'elles ne régleront pas le problème.
Nicolas Barré.
Manifestement, tout de même, l'islamisme radical progresse dans certains territoires. C'est extrêmement visible. La question quand même qu'on a envie de vous poser, c'est quand vous discutez avec les imams, et ça vous arrive, vous le disiez à l'instant, est-ce que vous considérez que ces imams font suffisamment leurs devoirs et interviennent suffisamment pour éviter ces dérives? Parce que ces dérives progressent.
Certes, ils peuvent avoir un message auprès des musulmans. La plupart des musulmans ne sont heureusement pas des violents. Mais on voit bien qu'il se crée un climat de violence dans l'islam qui passe par d'autres réseaux que les réseaux de mosquées habituels. Hein. Bien sûr, il y a quelques mosquées qui peuvent être radicalisées, mais globalement, elles ne sont pas radicalisées. Est-ce qu'ils peuvent avoir la main dessus? C'est compliqué le fonctionnement chez eux, parce que l'imam, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, c'est le président. En fait, c'est le président de la mosquée qui décide de tout.
Oui, mais est-ce
l'imam,
qu'ils font
lui,
tout ce
c'est l'homme religieux qui explique le
dessus.
Coran. Et donc, arriver à maîtriser les choses, d'autant que c'est pareil, il ne faut pas croire qu'il y a une pratique fantastique chez les musulmans. Hein. Le taux de pratique chez les musulmans, ce n'est pas 100%, hein, contrairement à ce qu'on croit. Il peut y avoir des pratiques en dehors du vendredi, en dehors de réseaux qui sont des réseaux sur lesquels on n'a pas la main. D'ailleurs, aujourd'hui, par Internet, il se passe des choses. On voit bien que tout le recrutement a été fait par Internet parce qu'ils possèdent parfaitement l'outil.
Mais alors, comment reprendre la main? Parce qu'on sait que le président de la République souhaite éventuellement modifier la loi de 1905 pour essayer de regarder le financement de certaines de ces mosquées. Est-ce que c'est ça la bonne façon de faire?
Je viens de vous dire que non, puisque le financement, c'est peut-être important de savoir qui finance et qui ne finance pas, c'est sûr. Mais ça, c'est des questions juridiques, administratives, etc. Non, la question de fond, c'est est-ce que nous pouvons discuter avec eux? C'est ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on peut discuter sur la question de Dieu? Il y a plein de musulmans qui viennent dans nos écoles catholiques. Pourquoi? Parce qu'on parle de Dieu, tout simplement. Alors qu'on ne partagent pas notre foi, mais on parle de Dieu. Donc il faut qu'on puisse avoir des lieux de dialogue, encore une fois, comme on essaie de le faire et qu'on a essayé de le mettre en place, non seulement pour les Gilets jaunes, mais pour l'ensemble d'une réflexion sur la société qui est en souffrance. Pas souffrance vitale, etc., mais souffrance existentielle. Moi, je vois des gens qui souffrent et qui me disent leur souffrance. Et je suis en train de regarder comment on peut répondre à cette souffrance. Mais c'est vrai aussi dans l'islam. Les gens souffrent aussi parce qu'ils sont totalement perdus. On voit bien qu'entre l'islam d'Algérie, dont je vous parlais à l'instant, et l'islam de France, c'est un abîme. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que, bien sûr, il y a des catégories dans l'islam. Mais il y a aussi des strates différentes. Et il faut arriver à les comprendre. Comment arriver à rejoindre ces familles musulmanes? Comment à rejoindre ces enfants? Quels sont les lieux où on va pouvoir discuter? À l'école, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Et donc, du coup, ils vont parler de Dieu ailleurs. Et où ils vont en parler? Pas dans les endroits justement adéquats. Est-ce qu'on peut créer des lieux de dialogue, d'espace, où on puisse parler de Dieu, de l'homme, de l'anthropologie, de la question de l'homme et de la femme, etc., qu'on puisse réfléchir avec eux? Il y a des espaces de dialogue. Sur Radio Notre-Dame, là, il y a une rencontre qui se fait. Il était trois fois FOI, c'est-à-dire qu'un chrétien,
un juif
et un musulman. Et là, on confronte les questions et on voit qu'on est tout à fait capable de se parler, de se comprendre, d'approfondir les choses ensemble. Mais ces lieux-là, ils devraient être multipliés si on veut vraiment faire quelque chose.
Damien Fleurot.
Une dernière question sur la crise migratoire. Encore un sujet dans l'actualité aujourd'hui. Des ports se ferment à nouveau devant l'arrivée de bateaux. Encore aujourd'hui, 311 personnes à bord. Est-ce que la France manque à son devoir d'hospitalité et de fraternité? Vous aviez déclaré en avril 2018, enfin en avril dernier, nous avons les moyens peut-être d'accueillir plus que ce que nous faisons.
Bon, certainement. La question, c'est pourquoi on ne les accueille pas? On ne les accueille pas parce qu'on a peur, tout simplement. C'est vrai qu'on a peur. On a peur de quoi? D'une insécurité culturelle. Pourquoi? Parce que notre culture n'est pas aussi brillante qu'on le croyait. Hein. Nous étions les Français, alors nous pensions que nous allions répandre la civilisation dans le monde entier. Nous sommes les inventeurs de la démocratie, du libéralisme, etc. Et donc nous devions proposer notre modèle au monde entier. Or aujourd'hui, non seulement on ne le propose pas à l'extérieur, mais on a peur de ce qui vient de l'extérieur. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus sûrs de nous. Nous sommes extrêmement fragiles. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas fragiles parce que nous savons sur quoi repose notre foi. C'est pour ça que nous pouvons discuter très à l'aise avec les étrangers, quelle que soit leur religion, parce que justement, nous savons qui nous sommes. Mais est-ce que les Français savent encore qui ils sont? C'est ça la question. Est-ce qu'ils savent encore qui ils sont? Quand les gens sont là, qu'ils sont en détresse, la première chose, c'est de les accueillir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, dit Jésus. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été nu, vous m'avez couvert. C'est un devoir essentiel de l'humanité. Et pour un chrétien, c'est un devoir tout particulier parce que c'est comme cela qu'il sert le Christ. Donc ça nous paraît très important. Après, il y a la dimension des États. Et ça, c'est pas nous qui avons décidé. Comment on réfléchit au niveau des États, de la France, de l'Europe, et puis plus largement, de régler ces problèmes de migration. Parce qu'il y a toujours eu des migrations dans le monde. Toujours, toujours. C'est comme cela. Alors, des fois, on les accueille heureusement parce qu'on dit ça va nous servir, ils vont nous servir de main-d'œuvre pas chère. Et puis d'autres fois, on les repousse parce qu'on n'en a plus besoin, on n'en veut plus. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir un peu sérieusement à ce que veut dire ces phénomènes migratoires? Qu'est-ce que ça veut dire que les gens veulent se déplacer? Ils ne se déplacent jamais de gaieté de cœur. C'est parce qu'il y a peut-être quelque chose chez eux qui est une souffrance. Est-ce qu'on peut réfléchir et de voir comment on peut ajuster cette question? Alors, il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde. Il s'agit simplement, est-ce qu'encore une fois, on veut bien arrêter de traiter les problèmes de façon superficielle comme on le fait aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment, dans ce pays, réfléchir? Nous l'avons fait, nous sommes un pays de la philosophie, nous sommes un pays de la pensée, de la réflexion. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est vide. C'est vide. Il n'y a plus personne qui est capable de réfléchir. Alors, on a quelques beaux articles ici ou là, mais ça n'a pas beaucoup d'effet sur le monde politique, en tous les cas.
À quelques heures de Noël, c'est donc un message d'hospitalité, d'espérance
de fraternité,
que vous portez.
De fraternité surtout, parce que nous croyons que nous sommes fils d'un même Père, qui est Dieu. Et donc, quelque part, nous avons le devoir de nous occuper les uns des autres. Ça, la première phrase de la Bible, c'est Caïn et Abel. C'est le début de la culture de mort. Il a tué son frère. Et Dieu lui demande, mais qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répond, mais qu'est-ce que j'ai à faire de mon frère? Eh bien, la question, c'est qu'est-ce que nous répondons, nous, quand Dieu nous dit, qu'est-ce que j'ai fait de mon frère? Voilà. Est-ce que, ben oui, moi, mon frère, il compte pour moi. Est-ce que c'est ça la réponse? La réponse de Noël, c'est ça, parce que quelque part, le Christ est venu, il est venu à Bethléem, il n'y avait pas de place pour lui. L'aubergiste l'a foutu à la porte. Mais heureusement, il y avait une étable et il y avait les bras de Marie. Alors nous, la question de nous poser au Noël, est-ce que nous sommes un aubergiste ou est-ce que nous sommes les bras de Marie?
Merci beaucoup, Monseigneur Aupetit, d'être venu honorer l'invitation du grand rendez-vous d'Europe 1 en partenariat avec CNews et Les Échos. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Un très bon Noël à toutes et à tous.